C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Kéline Kouté à la présentation.
Bonsoir, un seul thème dans les débats de ce soir. Il s'agit du bilan à mi-parcours des 5 chantiers de la République. Et ce soir, Dialogue entre Congolais se penche sur le chantier infrastructure dans son aspect route. Où en est-on à ce jour avec l'exécution des travaux de réhabilitation et modernisation des routes à travers la RDC? C'est la question au centre de notre débat de ce soir. Pour en parler avec moi dans cette émission, Émile Bongeli, vice-premier ministre en charge de la reconstruction. Bonsoir, monsieur le vice-premier ministre.
Bonsoir.
Valentin Moubaké, président du comité national de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Bonsoir, monsieur Valentin Moubaké.
Bonsoir.
Et Tati Sungani, analyste socio-économique. Bonsoir, monsieur Tati.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78. Les travaux de réhabilitation des routes dans les cadres des 5 chantiers sont en cours dans les provinces de la RDC. Les routes nationales et les voiries urbaines sont concernées par ces travaux. Mais partout, le même constat est fait. Les routes des dessertes agricoles ne sont pas encore touchées par ces travaux. Situation des travaux en cours dans ces quelques provinces, le Katanga, le Kasaï Oriental, le Sud-Kivu, le Bas-Congo et le Bandundu avec Guimaté.
La route Lubumbashi-Kasumbalesa, longue de 84 km, dont 34 km ont été réhabilités complètement, et les 50 km restants ont connu des travaux de réfection. En ce qui concerne la nationale numéro 5, qui va de Lubumbashi à Uvira au sud Kivu, en passant par Poto et Moba, les travaux d'asphaltage ont atteint les 40 km. Cependant, les travaux sur la route Likasi-Kolwezi n'ont pas commencé. Par rapport à la voirie urbaine, 40 km de route dans la ville de Lubumbashi sont asphaltés et 22 km interdits. Battu et réhabilité. Pour le Bas-Congo, les travaux sont achevés sur les routes Boma-Mwanda, Sekebanza Kinza Onvwete, ainsi que Tchela-Singini. Les travaux ont été lancés, mais arrêtés sur la route Kimvula-Kisantu. Les travaux sont en cours d'exécution sur le pont Pozo et la route ceinture Amatadi. Les routes en attente de réhabilitation sont Kamba-Mbanzangungu, Tchela-Lukula et Matadi-Boma. Pour la province de Bandundu, la route nationale numéro 1, axe Kinshasa-Kikwit, est en train d'être réhabilitée. La partie comprise entre Kinshasa-Pont-Kwango est achevée. De Kenge à Kikwit, la route est bien achevée et macadamisée. Au sud Kivu, les 12 km de route sur le tronçon Bukavu-Kavumu, long des 35 km, sont déjà réhabilités. D'autres projets de réhabilitation routière sont en cours. Par exemple, la réhabilitation de la route Bukavu-Kasongo, dont les travaux ont dépassé Kamituga et s'approche de Kitutu à plus ou moins 200 km de Bukavu. Les tronçons Carrefour, Kadutu, Chimpunda, jusqu'au point de rencontre avec la route nationale numéro 2 au niveau de Kiriri, est en cours. Au Kasaï Oriental, dans la ville de Mbujimayi, on note quelques axes asphaltés, notamment le boulevard Laurent-Désiré Kabila et l'avenue Kalonji. À l'intérieur de la province, l'axe Kabinda-Tiola, nationale numéro 2, est déjà réhabilité comme la route des dessertes agricoles Lodja-Katako-Kole.
Merci Guy Maté pour ce reportage. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez suivi dans ce papier que vient de nous proposer Guy les réalités dans certaines provinces de la RDC sur l'exécution des travaux des réhabilitations et construction des routes. Dans la plupart des cas, les routes des dessertes agricoles ne sont pas encore concernées par les 5 chantiers. Pourquoi? Et pourtant ces routes aident beaucoup la population.
Merci beaucoup. Je pense que vous avez vous-même entendu que les travaux s'effectuent réellement sur les grands axes. Et l'ingénieur Moubak qui a dirigé les routes de dessertes agricoles ne me contredira pas. Pour que les routes de dessertes agricoles puissent servir réellement, il faut d'abord rouvrir. Je dis bien rouvrir parce que c'était des routes complètement abîmés. Il faut d'abord rouvrir les axes principaux parce que toutes les routes de dessert agricoles viennent se graisser sur les grands, les grandes routes. Et maintenant, d'ici le mois d'ici la fin de l'année, l'Union européenne a donné, dans le cadre de l'appui budgétaire, il va nous aider à réhabiliter. C'est maintenant que nous allons commencer à rétablir les routes de dessertes agricoles là où les axes principaux sont déjà ouvert. Et comme ça, donc, nous pensons pouvoir désenclaver les milieux qui se servent de ces routes et de cet agricole.
Monsieur Valentin Moubaké, vous venez de suivre le papier que nous a proposé Guy et la réaction du ministre. Vous pensez qu'il faut d'abord privilégier les axes principaux avant de réhabiliter les routes des dessertes agricoles?
Bon, vous pensez bien que nous avons beaucoup de choses à dire sur le programme des cinq chantiers de manière générale et les routes en particulier. Et sur le plan des principes, vous savez, quand on voit un pays comme le Congo avec ses dimensions continentales, la première idée qui vient à l'esprit, c'est les routes. Pour pouvoir assurer le développement de ce pays en désenclavant l'ensemble du pays, intégrer l'économie du pays dans son développement et assurer la circulation des personnes et des biens et des services à l'intérieur du territoire national. C'est l'objectif des routes dans un plan général de transport. Mais nous aurions souhaité, compte tenu de l'immensité de besoins, pour donner quelques chiffres à M. le vice-premier ministre, nous avons à peu près 152 000 km de routes. 152 000, laissés par les Belges. Sur les 152 000, nous avons 58 000 km, on peut dire, d'intérêt général, confié à l'Office des routes. Nous avons, pour les routes de cette école, environ 87 000 km. Nous avons 7 000 km de voies urbaines. Vous voyez donc que la tâche est immense et il n'y a pas de moyens. Que faudra-t-il faire? Qu'est-ce qu'il eût fallu faire? Il eût fallu dégager un réseau prioritaire. Pas seulement des routes d'intérêt général, mais aller jusqu'aux routes de cette agricole, sur le plan de la conception. Avec ce réseau prioritaire, déterminer le scénario le plus rentable économiquement, je ne dis pas financièrement, économiquement pour le pays. Parce qu'il y a plusieurs routes, mais toutes les routes n'ont pas la même importance sur le plan économique au niveau national. Et cette étude-là, qui n'existe pas, devait déboucher sur un programme. Un programme certainement pluriannuel, 5 ans, 10 ans, 20 ans, que j'en sais. Et c'est ce programme-là que M. le vice-premier ministre devait vendre, comme il le fait bien à la télévision chaque jour. Mais cela n'existe pas. Et voilà, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut d'abord désenclaver les axes principaux. C'est bien. Mais ces axes principaux-là sont-ils les plus économiquement rentables pour ce pays? Et ces axes principaux vont driver quel trafic, étudié par qui et dans quel document? Ça n'existe pas. Voilà la première grande faiblesse des cinq chantiers et principalement dans le secteur routier. J'ajoute pour terminer, madame. Vous savez, quand on voit un pays immense comme le Congo, bien sûr, on voit les routes. Mais le même raisonnement s'appliquerait au Soudan. C'est un pays très vaste. Mais quelle est la particularité du Congo à la matière? C'est que nous avons une grande partie de ce pays qui appartient à ce qu'on appelle la cuvette centrale. La cuvette centrale, c'est un marécage. Les investissements routiers sont tellement coûteux, ils varient du simple au double sur cette zone-là, si bien que tous les bailleurs de fonds, en tout cas les multilatéraux, sont réticents parce que la rentabilité économique n'est pas éprouvée. Et le pays n'a pas d'argent. Heureusement, dans cette même cuvette centrale, nous avons 16 000 km de voies fluviales navigables. Des rivières navigables. Donc, le gouvernement n'aurait pas dû s'arrêter aux routes comme la première idée qui passe par la tête. Le gouvernement devait concevoir un programme multimodal de déplacement de ce pays. Je peux quitter aujourd'hui Kinshasa, arriver à Lodja, sans prendre l'avion, si l'idée était bien conçue au niveau du gouvernement. Voilà les faiblesses, il y en a d'autres. Pour l'instant, je m'arrête là.
Monsieur le vice-premier ministre va vous répondre, monsieur Valentin Moubaké. Tati Trungani, vous êtes analyste socio-économique. Quel peut être l'impact des routes des dessertes agricoles sur l'économie de la RDC?
Oui, de façon indiscutable, il faut dire que les routes des dessertes agricoles, comme l'indique d'ailleurs son nom, ces routes permettent donc l'évacuation des produits agricoles qui sont cultivés dans le 500, dans le Congo profond. Il faut aussi il faut savoir, parce que tout le monde le sait, que la population congolaise est composée à plus de 80% d'agriculteurs. Et donc le pays produit énormément sur le plan agricole, mais souffrent malheureusement de problèmes d'évacuation. Et me semble-t-il, au niveau des priorités du gouvernement, ce qui n'est pas mauvais, il avait été donc décidé de donner priorité aux routes, aux axes routiers. Ben, c'est assez regrettable que les routes des dessertes agricoles n'aient pas, disons, fait l'objet d'un plan plus vaste. Mais à la dédouane du gouvernement, il faut quand même rappeler que le pouvoir actuel a hérité d'un réseau routier complètement délabré. L'ingénieur Moubak l'a dit, 152 000 km de route laissées par les Belges. Mais il faut se poser la question de savoir en combien de temps les Belges ont bâti ce réseau routier. Et ce réseau routier n'a pas été entretenu, il s'est complètement dégradé et il est en train d'être remis en état progressivement. Donc il faut quand même équilibrer les choses. Autant le gouvernement n'est pas allé plus loin qu'il le fallait dans la politique de priorisation au niveau de la remise à niveau des routes, de dessertes agricoles, parce que il est indiscutable que les produits agricoles, une fois cheminés vers les centres urbains, ont un impact certain dans l'économie et donc in fine dans la balance commerciale et même dans la balance de paiement. Alors lorsqu'on observe, n'est-ce pas, les cinq chantiers, je dois rappeler ici que les infrastructures, dans les infrastructures, il n'y a pas que les routes, il y a aussi les écoles, il y a les hôpitaux. Mais si l'on doit simplement s'arrêter sur l'aspect routier, je note qu'il y a aujourd'hui 60 projets qui sont en cours de réalisation par le gouvernement. Ces 60 projets sont soutenus premièrement par le programme économique du gouvernement, par le gouvernement lui-même, ensuite par la signature de contrat chinois, et enfin par la coopération bi- et multilatérale, notamment, comme on l'a signalé tout à l'heure, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, etc. Mais si l'on doit prendre point par point, lorsqu'on prend par exemple le programme économique du gouvernement, vous constatez que dans le budget, parce que le programme économique du gouvernement est traduit en chiffres par le budget. Okay. Lorsqu'on observe le budget, la part qui est réservée non seulement aux axes routiers, mais surtout aux routes de dessertes agricoles, eh bien, c'est une part qui est relativement faible. Et lorsqu'on va plus loin dans les contrats chinois, vous savez que ces contrats font l'objet d'une discussion entre le gouvernement congolais et la communauté financière internationale, et que la réunion du Club de Paris, comme vous le savez, le Club de Paris constitue donc les principaux donateurs du Fonds monétaire international, eh bien, n'a pas eu lieu le 15 septembre, elle avait été ajournée au 21 octobre. Et vous savez que le conseil d'administration subordonne son feu vert aux avis du Club de Paris, donc l'initiative PPTE étant gelée, le programme du triennal qui devrait être conclu avec le gouvernement le sera également. Donc, il faut aussi savoir que pas mal de projets routiers, notamment ceux de dessertes agricoles, sont aussi soutenus par la communauté financière internationale, notamment le FMI et la Banque mondiale. Donc tout cela me donne à penser que ce soit au niveau du budget, que ce soit au niveau de la gestion des finances publiques, que ce soit au niveau de la conclusion des contrats avec les partenaires, il y a un problème assez sérieux de gouvernance qui se pose. Mais comme je l'ai dit au début de mon propos, à la dédouane du gouvernement, il faut reconnaître que le gouvernement, avec les moyens maigres du moment et surtout avec la crise qui se passe, parce qu'avec la crise, vous savez qu'il y a une faiblesse de l'exportation et donc il y a un aménagement des moyens internes de l'État, eh bien, je crois que le gouvernement essaie, dans la mesure de ses possibilités, de pouvoir entretenir un programme qui me paraît cohérent, encore que dans la gestion des finances publiques, il y a encore beaucoup à faire.
Alors, Monsieur le vice-premier ministre Émile Bongeli, vous avez venu de suivre tour à tour l'ingénieur Valentin Moubaké et Tati Tungali. Que répondez-vous au propos de ces deux intervenants?
D'abord, je suis très heureux de voir que je discute avec des scientifiques. J'ai entendu les observations de Maître Moubaké, de même que celui de Monsieur Tungali.
Tati.
Et des éléments objectifs de discussion. Alors, c'est déjà une preuve que les cinq chantiers sont bel et bien en marche et que la contribution des uns et des autres, c'est pour essayer d'améliorer, n'est-ce pas, pour que les choses se fassent mieux. C'est déjà patriotique que nous en arrivions là, que nous en arrivions aujourd'hui à parler maintenant positivement de notre pays. Et plutôt que d'assister à des discours tels que nous les avions connus, n'est-ce pas, un négativisme absolu. Alors, pour répondre aux préoccupations très pertinentes de l'ingénieur Moubaké, je préfère toujours l'appeler l'ingénieur. Je pense qu'il faut savoir que c'est un ingénieur civil des constructions qui a dirigé les routes de dessert agricole. Donc, il a parlé vraiment en expert. D'abord, il faut un réseau, il faut définir un réseau prioritaire, comme il a dit, prendre les scénarios les plus rentables du point de vue économique. D'abord, ce plan existe bel et bien. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine, je pense lundi dernier, ou vers la fin de la semaine, je n'ai pas tout à fait la date, la Banque mondiale a présenté une étude sur les routes prioritaires où on a tenu compte des axes économiquement rentables, comme il a très bien dit. Et cette étude a été discutée. Il faut savoir que lorsque nous prenons uniquement les critères économiques, nous devons tenir compte aussi des critères politiques. On ne peut pas, sous quelque prétexte que ce soit, abandonner toute une population dans l'enclavement total dans un même pays sous prétexte que là, il n'y a pas de production, ici, il y a des productions. Donc, il faut allier les deux, les routes prioritaires, bien sûr, mais voir aussi les routes qui, politiquement, aident à désenclaver la population, parce que l'idéal, la vision du chef de l'État, c'est de faire en sorte que le Congo soit uni, fort et prospère. Et on ne peut pas unir un pays en abandonnant certaines parties du pays.
Allez-y, je vous écoute.
Alors, nous avons aussi, l'ingénieur Moubaké a aussi parlé des 16 kilomètres de voies fluviales. Je pense que, 16 000 kilomètres de routes fluviales. Nous sommes tout à fait d'accord avec lui, c'est vraiment un point de vue tout à fait objectif scientifique, et le programme multimodal existe. Par exemple, dans le travail que nous avons discuté, dont je viens de vous parler là, l'axe le plus rentable, c'est Matadi-Kisangani. Et ça inclut d'abord le chemin de fer et la route combinée Kinshasa. Matadi-Kinshasa. Et de Kinshasa à Kisangani, on utilise la voie fluviale. Sans parler de tous les embranchements qu'il y a, n'est-ce pas, sur les différents affluents du fleuve Congo. Donc, le programme multimodal existe bel et bien, et aujourd'hui, il y a même la Banque mondiale vient de financer, d'abord pour le cas de la SNCC, dans le cadre du programme multimodal, pour 160 millions de dollars pour réhabiliter la SNCC, et ça c'est dans le cadre du programme multimodal, c'est-à-dire le programme qui inclut toutes formes de voies de communication.
Oui, excusez-moi de vous couper la parole, monsieur le vice-premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous donner le chronogramme de l'exécution des travaux de réhabilitation et construction de routes, rapidement, en gros?
Je voudrais d'abord répondre aux préoccupations, n'est-ce pas, qui ont été avancées par les uns et les autres. Cette question-là, vous me la posez, je vais vous répondre.
Ça rejoint un peu les préoccupations. Allez-y, je vous écoute.
Alors, en ce qui concerne l'intervention de Tati, je pense qu'il a très bien dit que nous avons trouvé un héritage négatif, mais nous sommes décidés d'affronter le problème. Nous connaissons très bien, il a très bien parlé des produits agricoles, non seulement la balance de paiement, mais aussi l'emploi rural, parce qu'aujourd'hui, les milieux ruraux sont en train d'être désertés à cause justement de cet enclavement, et lorsqu'on va remettre les routes, non seulement les routes les routes principales, mais aussi les routes de dessert agricole, l'emploi rural aussi va reprendre et la production va augmenter la richesse nationale aussi. Mais lorsque on parle des routes de dessert agricole, il faut savoir que la priorité, ça doit d'abord être les routes, les grandes routes d'évacuation, pour que les routes de dessert agricole viennent s'y brancher. Donc je pense que les priorités sont claires là-dessus. Bon, je pense que aussi que quand on parle du contrat chinois, il faut aussi vous mettre dans le temps. La discussion sur la discussion sur la réticence des institutions internationales est une discussion déjà dépassée. Tout le monde aujourd'hui reconnaît la pertinence, l'incontournabilité du contrat que nous avons signé avec les Chinois. Et il faut aussi savoir que l'argent du contrat chinois, ce n'est pas un don, c'est l'argent du Congo. Nous avons pris cet argent parce que nous allons le payer avec nos mines. Et comme l'avait dit le chef de l'État, pour la première fois au Congo, on saura qu'avec nos mines, nous pouvons avoir des routes. Donc, c'est notre argent. Il y a aujourd'hui un petit problème sur la soutenabilité de la dette. Il y a un problème d'un avenant qu'il faut signer. L'avenant a d'ailleurs été déjà signé. Il y a eu de petites erreurs qui vont être corrigées. Donc, on n'est plus à ce niveau-là. On est aujourd'hui, n'est-ce pas, au stade de la mise en œuvre de tous les programmes avec, non seulement avec les Chinois, mais aussi l'effort propre du gouvernement, mais aussi la contribution de nos différents partenaires au développement. La question que vous me posez sur le chronogramme
de l'exécution
des travaux. D'abord, l'ingénieur Moubaké va certainement me compléter, lui qui a fait des études appropriées là-dessus. Il faut savoir qu'une route, ça ne se construit pas comme une case au village. Il faut d'abord, fixer les priorités, il a dit. Il faut ensuite mener des études. On ne construit pas une route n'importe comment. Il faut ensuite disponibiliser les moyens que nous n'avions pas. Il faut aussi...
Et vous les avez maintenant, les moyens?
Oui, de manière progressive, parce que je vais y revenir, la reconstruction est une œuvre permanente. Si on continue à former les ingénieurs de routes, même dans les pays où il y a des routes, c'est parce qu'on en construit de nouveau et on doit entretenir les routes qui existent. Donc la reconstruction est une activité permanente. Il faut bien qu'on les retienne. Il faut disponibiliser les engins, parce qu'on ne construit plus les routes avec les doigts. Et aujourd'hui, le Congo, plus que jamais auparavant, a importé des milliers d'engins au pays pour justement, qui ont d'ailleurs commencé aujourd'hui à être opérationnels. Donc, maintenant, nous sommes entrés dans la phase visible. La phase visible, c'est-à-dire tout ce dont je venais de parler là-bas, ça s'est fait en invisible par les ingénieurs et d'autres économistes, c'est tout ça pour réunir les moyens. Et aujourd'hui, nous sommes sur la phase visible.
Et c'est quoi cette phase visible?
La phase visible, c'est la construction, effectivement.
Ou la réhabilitation?
Très bien. On parle de la réhabilitation. Vous voyez, dans notre pays, nous étions habitués au bibambabam, comme on dit en swahili, c'est-à-dire les points tapants. Aujourd'hui, nous construisons des routes qui doivent durer. Donc, nous modernisons la construction de nos routes. Évidemment, il y a des phases. Si nous commençons par l'asphaltage directement, nous ne ferons jamais rien. Mais il y a une priorisation. Nous ouvrons d'abord les routes. Les routes doivent d'abord devenir fonctionnelles et le programme d'asphaltage vient de manière progressive parce que ça exige non seulement du temps, mais aussi des moyens beaucoup plus colossaux. Donc, la phase de la mise en œuvre, la phase visible est déjà en route. Et maintenant, nous continuons progressivement, mais très sûrement.
Alors, M. Valentin Moubaké, M. le vice-premier ministre parle de la mise en œuvre de la phase visible du programme de cette santé. Est-ce que vous voyez cette phase visible?
Vous savez, nous voudrions d'abord préciser une chose. Construire notre pays, personne ne peut s'y opposer. Personne ne peut s'opposer à la reconstruction du Congo. Mais la manière de s'y prendre, c'est sur cette façon-là que nous émettons des réserves. Nous avons parlé d'une étude, on nous dit que l'étude existe. Le programme existerait, nous dit-on.
Existe.
Mais regardez le budget où devait se refléter ce programme-là. Il n'y a rien. Ce programme-là, nous le répétons pour un petit programme prioritaire dans ce pays. Il faut un programme pluriannuel. C'est peut-être 5 ans, 6 ans. Maintenant, le titre de votre émission, c'était le bilan à mi-parcours.
À mi-parcours.
Ça veut dire que ça a commencé quand et ça va se terminer quand? C'est la question que vous venez de poser, à laquelle il n'y a pas eu de réponse.
à mi-parcours. Nous sommes à mi-parcours de quelle durée qui a commencé quand et qui va se terminer quand. Nous n'avons jamais vu ce document-là. Donc, nous demandons à ceux qui dirigent, à ceux qui nous dirigent pour l'instant, il faut qu'ils rendent public ce programme pluriannuel, parce qu'on nous dit qu'il existe. Il faut que ce programme-là se reflète dans les budgets, dans les finances publiques. Et les partenaires qui viennent chez nous devraient s'insérer dans ce programme-là. Le vice-premier ministre nous a dit tout à l'heure, la Banque mondiale a présenté une étude. Je regrette que ce soit la Banque mondiale qui présente cette étude-là. Cette étude aurait dû être à la base même du lancement des 5 chantiers en ce qui concerne le secteur routier. Mais parce que l'étude n'existait pas, on a avancé une idée et la Banque mondiale, connaissant la Banque mondiale, parce que j'ai fait aussi des consultations Banque mondiale, la Banque mondiale ne peut rien donner sans étude économiquement éprouvée, du point de vue rentable. Et donc, il faut remettre les choses en ordre. La même chose avec cette affaire-là des Chinois, nous ne voulons pas en parler, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a importé des milliers d'engins. C'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine, comme pays, a le monopole, je dis bien le monopole, de tous les travaux routiers du pays. Et les dossiers d'appel d'offres se feront quand? Quand est-ce qu'il y aura adjudication publique? Ce sont des questions qui se posent dans le cadre de la transparence et donc du moins disant et donc du coût le plus acceptable. Je termine pour dire à M. le vice-premier ministre que le désenclavement n'est pas un critère politique. Le désenclavement, c'est un critère économique. Donc, mais ce que nous avons relevé comme crainte, c'est que s'il n'existait pas d'études préalables qui se reflètent dans un programme pluriannuel, nous le répétons, nous risquons de connaître, de constater ce à quoi nous assistons. Il y a un ministre qui se présente à l'Assemblée nationale, où le chef de l'État reçoit un groupe parlementaire d'une province donnée, et il dit, bon, nous allons construire dans chaque territoire autant de dispensaires, autant de routes. Donc, la pré-campagne commence. Ça devient des choses aléatoires et cela, c'est la mauvaise gouvernance. Par contre, s'il y a un plan publiquement en vue, dans tous les domaines des 5 chantiers, personne ne va plus tripoter en disant, j'ai donné un don d'impôt, j'ai donné un don d'un bac, comme on a assisté à la télévision il y a 3 semaines pour le Sankourou, j'ai donné un don de ceci. Ça devient ridicule pour un pays organisé. Enfin, qui se veut organisé.
Alors, Tati Tsungani, vous êtes aussi d'avis que le désenclavement est un critère plutôt économique que politique?
Le désenclavement est d'abord un critère géographique. Hein? Donc, il faut que l'on se mette bien d'accord sur ce point-là. Maintenant, tout dépend de l'engagement de l'État. Voyez-vous, si l'État estime qu'il va politiquement permettre à des habitants, excusez-moi la tautologie, un coin de pays, de pouvoir accéder à des agglomérations plus urbaines, l'État construit des routes. Mais l'État peut aussi faire le choix, n'est-ce pas, de construire une route qui économiquement peut être rentable dans le cadre d'un programme économique du gouvernement. Donc, le désenclavement, c'est d'abord donc un fait géographique, mais qui peut, sans le cas devenir une affaire politique ou économique. Alors, je voulais rebondir assez rapidement sur ce qui a été dit tout à l'heure par le vice-premier ministre sur ce qui est des contrats chinois, parce que ça me tient particulièrement à cœur.
C'est pas le thème de ce soir, mais rapidement...
Non, parce que, vous savez, nous faisons un bilan à mi-parcours. Il est extrêmement important, parce que les contrats chinois permettent la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures dans notre pays. Je tiens aussi à rappeler que les infrastructures, c'est pas seulement les routes, c'est aussi les écoles, c'est aussi les hôpitaux, c'est pas mal de choses, ce qu'on appelle en économie la formation double du capital 6. Donc il faut construire, c'est quand on construit qu'on dynamise l'économie, parce que lorsqu'on construit, on fait appel au ciment, le ciment veut dire silo ou sinat, donc c'est les usines, et lorsqu'on construit, les importations se portent mieux, il y a une main d'œuvre qualifiée qui est opérationnelle, ainsi de suite. Donc c'est important que l'on en parle. Alors je voudrais quand même dire ceci, pour ce qui est du bilan à mi-parcours, des 5 chantiers, notamment dans le volet infrastructure, il faut que l'on puisse relativiser, n'est-ce pas, ce qui vient d'être dit ici. Je commence par dire ceci. Au niveau des routes, il faut être de mauvaise foi, n'est-ce pas, pour ne pas reconnaître que quelque chose est en train d'être fait. Moi, en ce qui me concerne, dans le cadre du travail que j'ai fait, je n'ai pas été invité pour cela. J'ai retenu un certain nombre d'axes routiers. Je prends un petit exemple comme ça, Lubumbashi-Kasumbalesa, 95 km, Lubumbashi-Kasenga, 230 km, en train d'être réhabilité, Beni-Niani à 120 km, en train d'être réhabilité, le pont Pozo à Matadi, en train d'être réhabilité, Matadi-Boma-Mwanda, 240 km, en train d'être réhabilité, Bukavu-Kavu, ainsi de suite. Je ne suis pas en train de faire, n'est-ce pas, l'apologie du gouvernement, mais ce sont des faits. Nous sommes des analystes, nous devons partir des faits concrets. Alors, mais simplement, quand on observe par rapport à ce qui avait été promis par le gouvernement lors des discussions du budget l'année passée, pour ce qui est des écoles, il n'y a rien. Donc, il y a un problème. Pour ce qui est des hôpitaux, il n'y a rien. Je crois savoir qu'il y a l'hôpital du cinquantenaire qui est en train d'être construit, un peu à la va-vite. Mais il n'y a rien. Lorsqu'on va dans les hôpitaux publics, mon père, au moment où je vous parle, mon père est hospitalisé à la clinique à Lima, je viens de là, les médecins sont en grève. Eh bien, cet hôpital qui était un de fleurons il y a quelque temps est complètement sous-équipé. Donc, au niveau du volet des infrastructures, il y a un problème. Il faut que le budget de l'État soit exécuté dans un volet social, parce que vous savez, les pays en voie de développement, ou le pays carrément développé comme les nôtres, sont des pays qui socialement sont bancables. Donc, il faut que l'aspect social, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les universités, etc., soit, disons, revêtent quand même une importance particulière. Et je vais évoluer en disant ceci. On vient de discuter du budget de l'exercice qui vient. Et là encore une fois, on se rend compte que le volet infrastructure n'a pas été correctement, représenté. Donc, on voit le train de vie de l'État, c'est une bonne chose, les salaires, ainsi de suite, la paix, mais on ne peut pas faire de paix pour un pays post-construit comme le nôtre sans privilégier des domaines qui vont tirer la croissance du pays. Et donc, il est important que l'on puisse, de ce point de vue-là, faire un budget qui ne ressemble pas à un budget pauvre. Il faut un budget ambitieux. Mais il ne suffit pas seulement de faire un budget ambitieux, il faut l'exécuter. Et c'est là que je dis, au niveau de l'exécution du budget, eh bien, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Le gouvernement a failli. Parce que le budget, tel que nous l'avions discuté, tel que nous l'avions vu l'année passée, c'est-à-dire 4,97 milliards, eh bien, aujourd'hui, à mi-parcours, donc 1000 milliards ont été dépensés, 958 milliards encaissés.
Rapidement,
eh bien, là, y a un problème. Donc, pour me résumer, ouais. C'est vrai. Il y a des bonnes choses qui sont en train d'être faites dans le pays, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut terminer avec les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire faire l'avenant, parce qu'il y a deux entreprises chinoises qui n'ont pas encore été signées. Il faut qu'il y ait une meilleure gouvernance des fonds publics, parce qu'on a l'impression que les fonds publics ne sont pas bien canalisés, mais cela étant dit, il y a effectivement des bonnes choses qui sont en train d'être faites sur le terrain.
Merci Tati. Les auditeurs sont nombreux à réagir par rapport à ce thème. Albert Olenga de Kindo Maniema, pour lui le bilan est très négatif pour les chantiers Routo Maniema. Il est vraiment impossible d'atteindre les coins les plus reculés de la province. Il est à Guenonga de Bounia dans la province orientale. La modernisation des routes demeure un rêve flou car sans projet de société ni un programme, comment peut-on y parvenir? Dans Charluana de Mbandaka à l'Équateur, les travaux des cinq chantiers de la République n'est qu'un simple slogan. Surtout dans la province de l'Équateur, il n'y a absolument rien qui se fait parce que les semblants des travaux de réhabilitation des avenues que l'OBD est en train d'essayer d'exécuter ne sont que des travaux qui détruisent davantage nos pauvres avenues en provoquant les érosions quand il pleut. Monsieur le vice-premier ministre, comment vous réagissez aux réactions de nos auditeurs?
Je veux d'abord réagir selon l'ordre, n'est-ce pas?
On n'a pas beaucoup de
non,
temps.
Non, mais il faut donner le temps à des discussions sérieuses, madame.
Mais c'est les réactions qui, elles, ne sont pas
moi. Je m'excuse, nous allons répondre à tous, n'est-ce pas? Il y a des réponses pour tout le monde. Il faut me donner ce temps-là.
On n'a pas assez de temps.
Vous ne m'avez pas invité ici pour me dire qu'il n'y a pas assez de temps.
Allez-y, d'abord, j'écoute.
D'abord, je suis très heureux de voir le caractère positif des interventions. L'ingénieur Moubak a dit clairement que construire le pays, tout le monde est d'accord. C'est déjà très positif. Et maintenant, nous discutons sur
les possibilités d'améliorer. Et là, nous sommes très ouverts, le gouvernement est très ouvert, parce que je vois que dans la plupart des discussions et de critiques que Maître Moubak avance, c'est une question d'information. Il faudrait que Maître Moubak, qui est ingénieur, qui a beaucoup de collègues au sein parmi ceux qui travaillent sur le TP et sur les routes, qu'il les contacte, ils vont lui donner une série d'informations et je pense qu'il nous aidera à avancer encore davantage. D'abord, il dit ceci que, d'abord je lui dis que, je lui confirme que pour tous les projets, il y a un plan. Il y a une série de projets qui ont été, qui sont en cours et il y a des documents sur ça. Les engins, il n'y a pas un monopole d'un quelconque pays. L'office de route, par exemple, a importé des engins, a acquis des engins qui ne sont pas des fabrications chinoises. Le programme ProRoute, financé par la Banque mondiale, avec une grande participation de la coopération britannique, a importé beaucoup d'engins qui ne sont pas des engins chinois. Le désenclavement, je pense que notre ami Tati nous a de partager, ce n'est pas purement économique, moi je ne l'ai pas dit, j'ai dit c'est politique et économique, et en parlant du critère géographique, je pense que Tati a très bien résumé que c'était politique et économique. Toutes les études sur les travaux qui sont en cours ont été faites. Les documents existent, j'invite l'ingénieur Moubak à venir, n'est-ce pas, entrer en possession de ces documents. Je ne sais pas, chaque fois qu'on fait quelque chose, on vous dit, on veut vous décourager en vous disant non, vous commencez déjà la campagne électorale. Je ne sais pas, donc faut-il croiser les bras? Faut-il ne rien faire? Pourquoi quand on pose une action, on dit non, c'est une campagne électorale? Je pense que quand on parle des travaux qui se font ici sur l'hôpital du cinquantenaire, mais allez visiter l'ingénieur Moubak, qu'il aille visiter, il verra que ce sont des travaux sérieux de génie civil qui sont amorcés là-bas. Il faut qu'il aille visiter pour bien en parler. Et lui qui est ingénieur, il en parlera mieux que nous tous. Quand on parle du pont Pose, non, ce n'est pas, c'est le nouveau pont Pose, un pont moderne et définitif. L'ancien pont va être complètement abandonné. Il faut le dire. Quand on parle de la route Benignania, cette route-là a déjà été réhabilitée. Maintenant, elle est en voie d'être asphaltée. Elle est en cours plutôt, je veux dire en cours d'asphaltage. Lorsqu'on dit on va construire des hôpitaux dans tout le pays, mais c'est un programme. Vous dites bien qu'il faut un plan. Ce plan-là existe. Construire les hôpitaux dans chaque territoire du pays. Est-ce que c'est impossible? Y a-t-il un mal à ça? D'abord, il n'y a pas de mal à ça, nous sommes d'accord. Est-ce que c'est impossible? Ce n'est pas impossible et on le dit parce qu'on va le faire. Tout ce qu'on a promis, on l'a fait.
Et est-ce qu'on pourrait vous résumer, monsieur le vice-premier ministre?
Non, je pense que, bon, c'est difficile de me résumer. En ce qui concerne les contrats chinois, je ne sais pas, on dit qu'il faut relativiser ce qui est fait. Écoutez, quand on parle, quand on construit un pays, je pense que l'ingénieur est là, on ne construit pas un pays en 2 ans. On est surtout un pays qui a été complètement détruit comme le nôtre. Il y a un programme et pour chaque projet, il y a un chronogramme. On vous dit par exemple telle route, de tel axe à tel axe, nous fixons autant de temps. C'est bien spécifié dans tous les documents, n'est-ce pas, qui parlent dans tous les plans d'exécution de ces travaux. Quand on parle du budget, je ne sais pas si on a vu ce budget-là. Parce que toutes les interventions de nos institutions, de nos partenaires au développement, tout est inclus dans le plan. Toutes les routes qui sont aujourd'hui en réhabilitation ont été inscrites dans le budget. Il faut bien le lire, n'est-ce pas? Le budget est ambitieux en fonction de nos problèmes ici. En ce qui concerne la réalisation, je pense que notre ami Tati, qui est un grand analyste, sait très bien que la crise internationale a fait que les produits que le Congo exporte ont connu des chutes allant de l'ordre de 10, par exemple, à 3. C'est normal qu'on soit confronté à ce problème.
Alors,
Bon, il y a beaucoup de questions qu'on a posées et puis bon.
On n'a pas assez de temps, il nous reste 6 minutes seulement et vous avez parlé pendant 18 minutes.
Donc non,
plus que tout
madame,
le monde, monsieur le Premier ministre.
Madame, on ne peut pas nous accorder le même type de minutes parce que ce sont des questions qui sont posées à un membre du gouvernement.
Mais au moins, vous pouvez les laisser parler.
Non, mais je les ai laissés parler, mais là, je réponds aux questions. Et puis, vous prenez le temps. Pendant ce temps, on aurait pu, n'est-ce pas, répondre à plusieurs autres questions. Il ne faut pas laisser les questions en suspens. Parce que quand on laisse les questions en suspens, c'est comme si on avait peur de répondre à une question.
D'accord, vous pouvez nous résumer, c'est par rapport au temps aussi, monsieur le vice-premier ministre.
Madame, vous leur avez laissé poser beaucoup de questions. Et vous me demandez à moi de ne pas répondre à toutes
non,
ces questions.
Non, vous répondez en vous résumant, c'est non. Tout ce qu'on vous demande.
Est-ce que je ne me résume pas? Je ne lis pas un livre, madame. N'est-ce pas? J'explique. Il faut donner le temps pour des discussions sérieuses. Je pense qu'il ne faut pas m'inviter pour que vous puissiez me déséquilibrer par des interruptions intempestives. Vous m'invitez, je prends mon temps pour venir, c'est pour que je réponde, pour que j'éclaire l'opinion. Alors, il ne faut pas que chaque fois qu'on invite, on parle du temps après, ici vous allez mettre peut-être la musique. Il faut prendre le temps qu'il faut. Alors, je continue si vous m'autorisez.
En une minute.
Je préfère ne pas parler.
Non, dites quelque chose.
Vous avez pris beaucoup de
travaux des Saint-Chantier. Qui finance les travaux des réhabilitations des routes?
La réhabilitation des routes est financée par le gouvernement et par nos partenaires au développement.
Quels partenaires, par exemple?
La Banque mondiale, l'Union européenne, la coopération belge. Et parce que le contrat chinois, ça, c'est l'argent du Congo. C'est autre chose que les partenaires dont on parle. Donc, voilà.
Et les travaux sont prévus sur une période de combien de temps pour la réhabilitation et la construction des routes?
Madame, posez cette question en fonction de chaque axe routier. L'axe routier qui est entrepris aujourd'hui, c'est pour combien de temps? Parce qu'il ne faut pas semer la confusion dans l'esprit des gens. Faire croire qu'en un mandat, on peut terminer la construction de toutes les routes. L'ingénieur qui est là, n'est-ce pas, peut vous dire, peut vous confirmer, lui, avec des termes plus pertinents que moi, que la construction des routes, surtout qu'il a souligné le fait que le pays est très vaste. Si, par exemple, vous êtes en Belgique, vous construisez 500 km de route, vous pouvez faire une croix, c'est-à-dire de l'est à l'ouest du nord aussi. Mais tandis qu'ici, 500 km, c'est seulement d'ici à qui quitte. Et donc, tout ça, ce sont des paramètres dont il faut tenir compte. Mais il y a un chronogramme pour chaque route, pour chaque projet entrepris. Il y a un temps fixé pour terminer ces routes.
Merci, monsieur le vice-premier ministre Valentin Moubaké. Nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de conclusion, je crois qu'on va revenir sur cette émission.
Je souhaite, en tout cas, qu'il y a plein de choses.
Oui, il y a beaucoup de questions qui sont restées
en suspens.
Pourquoi on ne peut pas organiser deux heures d'émission? Sur une question sérieuse. Pourquoi 5:45 minutes?
On va voir si on peut organiser cette émission. Allez-y, Valentin Moubaké.
Oui, donc, je souhaite que pour construire convenablement notre pays. Je répète ce que j'avais dit, personne ne peut s'y opposer, mais nous demandons instamment que le programme pluriannuel, certainement il sera pluriannuel, de 5 chantiers et dans tous ses volets soit rendu public. Ce programme suppose qu'il y a eu une étude de rentabilité économique pour ce programme. Et c'est ce programme-là qui doit se répéter dans le budget de l'État. On n'a plus à négocier cela, ni avec, au niveau du gouvernement donc, ni avec nos partenaires extérieurs, ce qui apparemment n'est pas fait. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'émettre des suppositions, nos partenaires feront ceci ou cela. Si ce programme-là existait, les partenaires se seraient assis autour de la table avec le gouvernement pour approuver ce programme, non seulement dans ses lignes directrices, mais aussi dans son financement. Et enfin...
En un mot,
monsieur le vice-premier ministre, l'hôpital du cinquantenaire, c'est un gâchis. 100 millions de dollars que vous avez accepté de payer aux Chinois, ça ne vaut même pas la moitié des travaux qui devraient être faits.
Merci, monsieur Valentin Moubaké. Jacques Tournel, dans son mot de conclusion, en 10 secondes.
Écoutez, en 10 secondes, c'est difficile, mais ce que je veux dire, c'est que autant le gouvernement a pris l'initiative d'aller dans le sens de la réalisation des 5 chantiers, autant je pense qu'au niveau de la concrétisation des 5 chantiers, il y a énormément de choses à dire, parce que il y a des correctifs qui doivent être apportés et on me signale que c'est fini déjà.
Oui, c'est déjà la fin de l'émission. Je suis vraiment désolée de vous couper, de vous arracher la parole. Excellent, monsieur le vice-premier ministre, je crois qu'on va revenir. On va organiser notre émission sur les 5 chantiers dont son aspect infrastructure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.